podcast de Radio Vatican.
C'est un nouveau chapitre de la guerre symbolique que ce livre israélien et palestinien à l'UNESCO. Vendredi 7 juillet, l'organe onusien a déclaré la vieille ville d'Hébron en Cisjordanie, site palestinien protégé, d'une valeur universelle exceptionnelle. Une décision saluée par les Palestiniens, mais conspuée par les Israéliens, pour qui le vote de cette résolution constitue une souillure morale, ainsi qu'une volonté de falsification de l'histoire. Située à une quarantaine de kilomètres de Jérusalem, Hébron est l'une des villes les plus anciennes du Proche-Orient. Sacré à la fois pour les juifs, les chrétiens et les musulmans. Son centre-ville renferme en effet le caveau des patriarches où reposeraient les corps d'Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses. La ville palestinienne est devenue un symbole tragique du conflit israélo-palestinien et ce vote de l'UNESCO jette une lumière crue sur une situation unique en Cisjordanie, celle d'une colonisation de l'intérieur. La vieille ville d'Hébron est en effet habitée par quelques centaines de colons protégés par l'armée israélienne, alors que les habitants palestiniens voient leur liberté de mouvement considérablement restreinte. Cette cohabitation explosive et ce quotidien de tensions palpables ont ruiné le tourisme et appauvri certaines des industries qui en dépendaient. L'analyse de Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités et président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient.
On parle à l'occasion de cette résolution qui me paraît importante. Quelque part, elle rappelle la situation et c'est important, mais cette affaire a démarré c'était en 1968, vous imaginez. C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a eu une première installation de colons à l'instigation d'un rabbin très radical qui s'appelait Moshe Levinger et qui a occupé le centre de la ville. C'était simplement un immeuble au départ qui renvoyait à ce qui s'était passé en 1929 dans cette ville, où il y avait eu des juifs qui avaient été assassinés, mais il y avait aussi d'autres juifs qui avaient été protégés par des Palestiniens. C'est une affaire compliquée, comme toujours. En tout cas, le gouvernement de l'époque a laissé faire, et ensuite, ça s'est agrandi, et les colons vraiment radicaux, c'est vraiment des gens très violents, ont occupé de plus en plus du centre-ville et ont complètement dévitalisé le centre-ville d'Hébron, qui est une vieille ville magnifique, et qui est aujourd'hui dans une situation tout à fait délabrée.
Alors l'UNESCO s'est déjà attiré les foudres d'Israël en statuant sur Jérusalem, maintenant sur Hébron. Et Israël accuse l'UNESCO de vouloir falsifier l'histoire, de vouloir en quelque sorte gommer l'histoire juive de ces lieux, Jérusalem et Hébron. Alors que penser de ces accusations?
Vous savez, c'est toujours un peu la même chose. Il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. La première dimension, c'est que les Israéliens, les gouvernements israéliens en tout cas, récusent l'idée qu'ils sont des occupants. Or, le monde entier, la communauté internationale en son entier, rappelle, que ce soit l'UNESCO, que ce soit la Cour internationale de justice, ou que ce soit au Conseil de sécurité, il y a quelques mois, c'était en décembre 2016, rappelle que Israël est une puissance occupante en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et même à Gaza. Donc, on rappelle cet élément fondamental. Et c'est pas parce que ça dure depuis des dizaines d'années que pour autant l'occupation devient légitime. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des sites religieux, il y a une mémoire juive, une culture du peuple juif, et il y a effectivement des événements tout à fait importants, le tombeau des patriarches ou le mur des lamentations. Et donc ça, c'est parfaitement légitime de vouloir préserver et même défendre ces lieux saints. Mais en même temps, ce sont des questions d'ordre culturel, d'ordre spirituel, qui n'ont rien à voir avec la question de la souveraineté politique. C'est pas parce qu'on a une revendication légitime sur des sites religieux qui sont fondamentaux dans l'histoire du peuple juif que pour autant cela permet d'en avoir la souveraineté politique. Et c'est cette confusion qui est constamment faite par les gouvernements israéliens. Et ce que dit l'UNESCO, ce que disent les Nations Unies, mais ce que dit le monde entier, le Quai d'Orsay dit la même chose. Ce sont des territoires occupés, donc il faut d'abord que ces territoires soient évacués et ensuite, évidemment, seront traitées des questions spirituelles et culturelles tout à fait importantes, avec notamment liberté d'accès absolue dans ces sites que j'évoquais à l'instant.
Alors, le texte voté par l'UNESCO est non contraignant. Il y a donc, en fait, peu de chances que la réalité du terrain ne change.
Vous savez, sur le plan international, il n'y a rien de contraignant. Je veux dire par là que le droit international, dans toutes ses dimensions, ne peut être mis en œuvre que par ceux qui ont accepté ce droit. Donc c'est vrai pour, évidemment, l'UNESCO, ça va de soi, mais c'est vrai aussi, par exemple, pour une décision de la Cour internationale de justice. D'ailleurs, ce n'était qu'un avis donc encore moins contraignant qu'une éventuelle décision. Même une résolution du Conseil de sécurité, comme celle que j'évoquais, qui est très importante, puisqu'elle exige l'arrêt de la colonisation, qui concernerait évidemment pleinement la ville d'Hébron, et puis qui concernerait l'occupation, donc en finir avec et la colonisation et l'occupation, eh bien, cette résolution n'est pas non plus contraignante, alors qu'elle a été votée par le Conseil de sécurité avec l'abstention des États-Unis, c'est-à-dire finalement le soutien implicite des États-Unis à l'époque, c'était Obama, bien entendu. Donc, le seul moyen d'avoir quelque chose de contraignant, c'est un peu technique, mais c'est un chapitre de la Charte des Nations Unies, qui est le chapitre 7, qui implique là, pour le coup, qu'il y ait des pressions économiques, voire militaires, mais ça, jamais aucune résolution concernant le conflit israélo-palestinien n'a été prise sous ce qu'on appelle donc le chapitre 7. Donc, effectivement, elles ne sont pas contraignantes, et donc, sur le terrain, c'est le rapport de force à l'état brut, c'est-à-dire un rapport de force où l'armée israélienne est évidemment dominante, puisqu'elle occupe le territoire.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.